Vous savez que ce séminaire a été en grande partie lié à la collaboration de la DNA avec l'IFE, avec donc Yvon Inquin, Olivier Faron et Éric Guyot et l'ensemble de l'équipe de l'ex-INRP. Donc merci à tous. Et comme initialement, vous savez, ce programme devait avoir lieu justement à l'École normale supérieure de Lyon, et que pour des raisons techniques, il a été nécessaire de le faire à Paris. Eh bien, voilà, c'est une manière de remercier et de mettre en avant la place de l'IFE dans la recherche sur la pédagogie numérique. Et nous tenons beaucoup à remercier l'institution que Yvon Inquin dirige. Et c'est vraiment une chance de pouvoir non seulement faire ce séminaire avec toi, mais de continuer à travailler sur ces programmes de recherche qui ne font que véritablement amorcer un grand virage dans les sciences de l'éducation. Merci Yves. Donc, et c'est aussi une des raisons qui fait que notre ami le docteur Bernard Croisil, qui devait intervenir depuis Lyon et qui par ailleurs est neuropsychiatre et travaille à une consultation de patients cet après-midi à Lyon, eh bien, il n'a pas pu se dégager de sa consultation et il est en visioconférence. Mais le numérique nous permet d'être avec lui. Merci. Merci. Il va nous parler d'un... Il a choisi un intitulé un peu accrocheur. Cognition et numérique, ange ou démon. Merci Bernard.
Merci. La première va de faire cette conférence par visioconférence. J'espère que tout le monde m'entend bien. La seconde extravagance est le fait que je ne suis en fait ni du monde de la pédagogie ni du monde de l'enfance. Je suis du monde plutôt des seniors, mais le professeur Benhamou a été très convaincant pour me demander de participer. Je suis effectivement neurologue, je m'occupe d'une consultation mémoire, mais j'ai une double vie, et cette double vie est la suivante, c'est celle qui va me permettre de vous faire part de mon expérience. Ma double vie est le fait que je suis cofondateur et vice-président scientifique d'une société, qui est la Société Scientific Brain Training, que nous avons fondée en 2000, et qui nous permet de créer des progiciels et des logiciels d'exercice cognitif, a priori destinés aux seniors. Nous avons un secteur qui est un secteur grand public, qui s'appelle Happy Neurone, et un secteur réservé aux professionnels, qui nous a permis de mettre au point des logiciels de rééducation cognitive destinés aux professionnels dans le cadre d'aphasie, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies d'Alzheimer. Nous réalisons également des logiciels pour la stimulation cognitive en secteur gériatrique, c'est-à-dire en résidence de personnes âgées. Et nous avons aussi une collaboration avec les psychiatres pour la stimulation cognitive en psychiatrie, pour des patients schizophrènes, RECOS, ou pour des patients dépressifs. Alors en fait, une question que nous sommes posées, c'était comment construire de bons exercices. Donc en 11 ans, nous avons créé une cinquantaine d'exercices qui sont maintenant en 7 langues. Nous avons même eu une collaboration avec le ministère de l'Éducation de la Corée du Sud. Ces logiciels sont conçus par des docteurs en neuropsychologie, en psychologie cognitive, en sciences de l'éducation. Ces exercices concernent 5 domaines, le domaine de la mémoire, celui du langage, de la concentration, de tout ce qui est logique et raisonnement, et de l'espace. Les paramètres de réussite sont étalonnés en fonction, enfin la réussite est étalonnée en fonction de 3 paramètres démographiques très classiques, qui sont l'âge, le genre et le niveau éducatif. Les mesures principales de réussite sont l'exactitude et la vitesse. Et tous nos exercices sont conçus selon un plan identique. Il y a d'abord une partie que nous appelons « pour en savoir plus », dont l'objectif est de permettre à la personne qui joue de comprendre l'intérêt de l'exercice qui est proposé. Nous réalisons un exemple qui se veut le plus pédagogique possible. Et la personne a des choix de variantes thématiques et de niveaux de difficulté. Ces exercices sont toujours validés par des groupes de seniors issus de l'Université Tous Âges de Lyon qui nous permettent de valider l'intérêt, le côté pratique de chaque exercice. Et mardi, nous avions 89 millions d'exercices réalisés dans les 7 langues proposées. Alors, pour le site grand public, nous avions des prérequis et des objectifs. Il nous semblait indispensable, alors bien sûr, c'est évident, que les exercices soient bien perçus, aussi bien au plan visuel qu'auditif, Il faut bien sûr que les joueurs soient attentifs, il faut qu'ils puissent bien analyser les consignes, et nous leur conseillons de répéter l'exercice de façon à varier la difficulté. Nous avons souvent été confrontés à des personnes qui se précipitent sur la variante la plus difficile, alors que notre désir, c'est qu'il y ait une progression. Pourquoi? Parce qu'il faut garder un cadre ludique, et si l'exercice est trop difficile, le côté ludique disparaît. Et surtout, nous voulons que les personnes puissent comprendre comment et pourquoi elles échouent, et comment et pourquoi elles réussissent. Il faut donc partir petit pour pouvoir progresser et comprendre. Et l'objectif de tous ces exercices est bien sûr de permettre à la personne de transférer au quotidien les éventuelles stratégies apprises, acquises lors de la réalisation des exercices, ce qui est le but ultime, mais ce qui n'est pas toujours facile. Alors voici un exemple des interfaces visuelles auxquelles sont confrontés les joueurs avec un exercice, enfin, des saisies d'écran, d'un exercice de concentration, d'un autre de mémoire dans un cadre visio-spatial, d'un exercice de concentration visio-spatiale, d'un autre exercice de raisonnement appliqué au langage. Alors, nous avons eu dans les deux premières années de notre création, nous avons un souci qui était d'analyser si c'était pratique. Et la façon pour nous de l'analyser était de regarder le taux d'abandon. Donc, au bout de 2 à 3 ans d'exercice, on va dire, nous avons travaillé sur le taux d'abandon chez 628 abonnés, en majorité des femmes, à 64%, et avec 18 exercices. Alors déjà, un petit élément sur lequel je ne ferai aucun commentaire, c'est que l'abandon était plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Les 18 exercices étaient classés en un groupe de 6 exercices à faible taux d'abandon, vous voyez, 8%, 6 exercices avec un taux d'abandon plutôt moyen, 31%, et 6 exercices avec un taux important d'abandon à 67%. Pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cet abandon, d'accord. Pour essayer de comprendre pourquoi ces exercices étaient abandonnés, nous avons réalisé une étude qui était la suivante. Nous avons demandé à 16 seniors d'étudier au moyen d'un questionnaire les caractéristiques des 18 exercices. Chaque exercice donc était analysé avec 21 questions avec des réponses oui-non et éventuellement une analyse qualitative. Et l'analyse discriminante nous a permis de voir qu'en fait, 14 des 21 questions étaient discriminantes selon deux fonctions linéaires. Une des fonctions nous permettait d'approximer en fait la réalisation de l'exercice. Et en fait, il fallait que ce soit un exercice de durée courte avec une manipulation simple et une ambiance simple et ludique. La seconde fonction intervenait au moment du choix de l'exercice. Il fallait que les instructions initiales soient claires et brèves et que l'exemple soit très pédagogique, très didactique. Alors bien sûr, c'était évident a priori que ce serait ceci qui déterminerait l'abandon. Et comme toujours dans un monde qui est celui de l'évidence-based medicine, c'était bien d'en avoir la démonstration. Et grâce à ce questionnaire et à cette analyse discriminante, il est apparu en fait que 17 des 18 exercices étaient correctement classés dans les trois groupes. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques informations sur les résultats que nous avons pu analyser, enfin, nous avons pu avoir dans l'analyse des exercices réalisés sur le site grand public. Nous avons pris 350 abonnés qui étaient assidus, qui avait travaillé sur 90 jours, donc je ne vais pas rentrer dans plein de détails statistiques. Le point intéressant, c'est que alors que notre site se voulait dédié aux seniors, vous voyez que la moyenne d'âge de ces abonnés était de 54 ans. Nous avons des sujets de 85 ans, mais nous avons aussi des sujets de 20 ans. En 90 jours, il y a eu 65 sessions d'entraînement correspondant à 571 exercices, mais avec une distribution assez étendue. Et vous voyez que les 5 domaines sont l'objet d'une amélioration, qui n'est pas l'amélioration par exercice, mais comme chaque exercice, de façon logique, fait intervenir peut-être de la mémoire en priorité, mais également le domaine du langage et de la concentration, par exemple, ce qui fait que nous alimentons des scores qui ne sont pas issus de la réussite à un exercice, mais plutôt de la réussite des sous-composantes cognitives entraînées par un exercice. Et on voit qu'il y a une amélioration, ce qui est un petit peu logique finalement, pour chacun des chaque domaine, cette amélioration allant de 14% à 20%. Donc le langage étant le secteur, le domaine le mieux amélioré, et la mémoire, le secteur le moins amélioré. Les conclusions qu'on peut tirer, dont je vous fais grâce d'un certain nombre d'éléments de statistiques, c'est qu'il existait une amélioration significative du profil cognitif lors d'un entraînement sur 3 mois, et cette amélioration était, on ne serait pas surpris, corrélée à l'intensité de l'entraînement, c'est-à-dire le nombre d'exercices, le nombre de sessions et le nombre d'exercices par session. Il y avait également, ce qui est plus intéressant, une corrélation aux valeurs initiales, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte, les premiers exercices permettaient de réaliser un bilan de départ, et on tenait compte ensuite de l'amélioration à partir d'un certain nombre d'exercices réalisés. Mais le point intéressant, c'est que les profils qui les plus bas étaient ceux qui finalement progressaient le plus, ce qui n'est pas surprenant, mais surtout c'était ceux qui s'entraînaient le plus, comme si les personnes étant conscientes d'une certaine faiblesse, d'une certaine fragilité, réalisaient l'entraînement le plus important en nombre de sessions, en nombre d'exercices. Et un élément intéressant, c'est que cette progression n'était corrélée ni à l'âge, ni au genre, ni à l'éducation, et on a regardé également ça, ni à la langue, c'est-à-dire au pays, aux personnes, selon les différentes langues d'utilisation de nos exercices. Et nous avons utilisé ces résultats pour conseiller des sessions de 30 à 40 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Alors maintenant, j'aborde plutôt le monde spécifique de la personne âgée, très âgée, de plus de 80 ans, en résidence. Donc c'est un projet qui est le projet Mnésis, qui date de 2004. C'était un projet qui a été financé par le ministère de la Recherche et de la Technologie, qui nous a permis de mettre au point un logiciel qui s'appelle Activital et qui a résulté d'une quadruple collaboration, celle de la société SBT, Scientific Brain Training, celle d'un groupe d'EHPAD. EHPAD sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc il nous a permis d'accéder à des résidences. Le laboratoire ICTT, qui est un laboratoire d'interaction homme-machine et qui nous a permis une approche sociologique de notre approche, et le laboratoire d'études des mécanismes cognitifs, qui est le laboratoire du professeur Olivier Koenig à Lyon 2. Alors, le logiciel que nous avons mis au point à disposition dans un cadre d'analyse dans des résidences, ce logiciel Activital permettait 3 choses. Il y avait 3 composantes. La possibilité de réaliser des exercices d'entraînement, mais des exercices extrêmement simplifiés, aussi bien dans la présentation visuelle que dans le nombre de variantes et de niveaux de difficulté. Il y avait la possibilité de créer, avec un logiciel très simple, un journal de la résidence. Et il y avait également une messagerie mail extrêmement simplifiée pour permettre aux résidents de communiquer avec les interlocuteurs de leur choix, en général les enfants et les petits-enfants. Quels ont été nos résultats? Il y a eu une amélioration cognitive, que je n'ai pas fait apparaître ici, plutôt sur des éléments de concentration. Mais ce qui nous a semblé vraiment le plus intéressant, c'était l'amélioration d'une certaine forme de qualité de vie dans ces EHPAD. Donc c'est l'approche sociologique avec le laboratoire ICTT. Premièrement, il s'est créé une forme de collectivité, enfin une sorte de collectivité au sein de la résidence, parce que ces personnes de plus de 80 ans se sentaient en fait être les pionniers d'une aventure technologique qui leur permettait de créer des échanges entre résidents. Ils s'aidaient, ils discutaient, nous allons réaliser tel exercice, et qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et ça permettait de vaincre d'une certaine façon une exclusion numérique qui est tout à fait compréhensible. Vous avez des personnes de 80 ans qui n'ont pas été confrontées au monde de l'ordinateur en réel jusqu'à présent, mais qui, le plus souvent, c'est dans sa résidence, on passe beaucoup de temps à regarder la télévision. Elle voit quoi? Elle voit des séries télévisées, des films, où les acteurs sont toujours sur des ordinateurs. Donc là, on leur proposait d'accéder enfin à l'ordinateur, et comme l'avaient dit certaines, je vais enfin voir ce que c'est que la petite souris. Ensuite, indépendamment de cette collectivité créée au sein de la résidence, il y a eu une réactivation de réseaux sociaux à l'extérieur, D'une part, parce que les résidents sont redevenus attractifs, c'est-à-dire que les petits-enfants se sont rendus compte qu'ils avaient un sujet de discussion qui était celui de l'ordinateur avec leurs grands-parents en résidence, et la messagerie mail simplifiée leur permettait d'échanger avec les enfants et les petits-enfants. Le seul problème, il a fallu un peu leur expliquer, c'est qu'ils envoyaient un mail, ils escomptaient une réponse dans les 5 secondes. Bien évidemment, les petits-enfants n'étaient pas forcément devant leur écran. Et enfin, nous sommes rendus compte que tout ceci permettait une augmentation de leur estime d'eux-mêmes par cette aventure technologique à laquelle ils participaient en réel et pas seulement en la regardant à la télévision ou en entendant parler. Ceci a permis d'observer chez ces personnes qui participaient à notre expérimentation, on s'est rendu compte qu'il y avait une meilleure participation aux animations parce qu'ils étaient finalement plus actifs, plus curieux, plus dynamiques, pas tellement dans les activités, alors vous voyez en orange avant l'expérimentation et en bleu après l'expérimentation, c'est pas tellement pour les activités physiques, pour les activités manuelles, et même pas tellement pour les activités cognitives, c'est-à-dire les animations où il y avait un peu de stimulation, parce qu'ils avaient l'impression d'être suffisamment stimulés par l'ordinateur, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient plus actifs dans des activités sociales et culturelles annexes, et qu'ils étaient beaucoup plus actifs dans tout ce qui était les indicateurs d'expression et de communication. Donc on avait vraiment la démonstration d'un transfert à des activités qui n'étaient pas spécifiquement celles entraînées, donc des activités sociales, culturelles ou de communication. Ensuite, il y a eu un travail dont nous avons les résultats très récemment, donc c'est vraiment une première. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'université Jacobs de Brême. En fait, cette université avait des fonds pour analyser l'intérêt, l'impact d'un entraînement cognitif sur ordinateur. Et nos logiciels à Pineurone ont été sélectionnés par cette université parmi une dizaine de programmes qui étaient proposés. Donc, notre logiciel a été sélectionné parmi 10 et cette université donc a réalisé un entraînement sur ordinateur de sujets normaux de plus de 50 ans, des sujets qui ne travaillaient pas, qui souvent étaient donc des chômeurs. Il y avait deux groupes, un groupe entraîné de 51 personnes, un groupe contrôle de 36 personnes. Ils avaient 20 jeux à leur disposition, donc 4 jeux qui étaient proposés en priorité et 16 jeux qui étaient, qui étaient réalisés, mais de manière moins intensive. Et au total, sur environ une trentaine de journées, ils ont réalisé 16 séances de 45 minutes. Qu'est-ce qui a été démontré? Alors, bien sûr, vous ne serez pas surpris. Et heureusement que quand on fait des exercices et qu'on les répète, qu'il y a une amélioration des performances. C'est ce que l'on voit ici. Il y a eu une amélioration significative des tâches entraînées. Donc, on voit qu'un exercice de vitesse perceptive ou un exercice de mémoire de travail, ou un exercice de mémoire épisodique, ou un exercice de raisonnement, ont tous démontré une amélioration significative entre la première performance en pré-entraînement et les performances après l'entraînement au bout de 30 jours. Donc ça, c'est pas étonnant, et heureusement, quand on fait plusieurs fois quelque chose, il y a une amélioration, le cerveau est quand même plastique. En revanche, ce qui a été très intéressant, parce que c'est la grande critique qui est souvent faite à ces situations de stimulation cognitive, c'est qu'il y a eu il y a eu une amélioration sur des tâches de transfert. Alors là, je vous en donne deux exemples. Sur la vitesse perceptive, à gauche, c'était une tâche informatique, mais dont le contexte, dont le cadre, n'était pas du tout celui des exercices. Et l'on voit en haut, en bleu, que le groupe entraîné, après donc un mois d'entraînement, eh bien, avait une amélioration significative par rapport au groupe en vert, qui était le groupe contrôle. Si l'on regarde maintenant la partie droite, on voit que sur une tâche, cette fois-ci, qui était une tâche papier-crayon, et c'était intéressant que ces tâches de transfert ne soient pas seulement dans un cadre qui était un cadre informatisé. Donc, sur une tâche papier-crayon, donc une tâche de perception spatiale, eh bien, on voit, alors ça n'apparaît pas de façon claire sur le schéma au plan visuel, mais l'analyse statistique le démontre, qu'il y a ici, dans cette tâche de perception spatiale, une amélioration significative du groupe entraîné par rapport au groupe contrôle. Alors maintenant, bon, pourquoi ce terme de ange ou démon ? Eh bien, d'abord parce que ça me permettait d'être assez vague sur le contenu de ma présentation, parce que j'avais pas encore les idées tout à fait formelles. Mais j'aimerais faire quelques petites remarques. Vous savez, parce qu'on en parle beaucoup, il y a des articles, il y a eu tout un numéro spécial de cette revue qui s'appelle Bouffe. Ces nouvelles technologies font peur. D'abord parce qu'on pense que les seniors, puisque je vous dis c'est mon monde, hein, mon royaume n'est pas celui des enfants mais plutôt celui des seniors, il y a beaucoup de craintes par rapport à l'usage de ces outils informatiques. Et puis il y a aussi une crainte par rapport au fait que Internet nous permet d'externaliser nos savoirs. Et l'inquiétude est qu'en externalisant notre savoir, c'est-à-dire que on appelle nous une mémoire externe, est-ce qu'on ne va pas vider la mémoire de l'individu ? En fait, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a des savoirs externes, ce n'est pas parce qu'il y a des bibliothèques, finalement, on devient stupide. Et vous vous rappelez sûrement que cette inquiétude, elle est finalement extrêmement ancienne. Vous savez que Socrate n'a jamais écrit de livre, et tout ce qu'on sait de l'enseignement de Socrate, c'est grâce à son élève Platon. Et Platon, dans le Phèdre, le Platon a justement raconté, rapporté, analysé l'inquiétude de Socrate face à l'existence du médium face à l'existence de l'écriture. Cette inquiétude était qu'on craignait que les gens allaient devenir stupides et devenir idiots parce qu'ils cesseraient d'exercer leur mémoire. En fait, le propos de Platon est beaucoup plus subtil puisque, en fait, son inquiétude est plutôt que l'écriture ne lui permette pas d'exprimer sa perception de la vérité. Il avait l'impression que l'oral était plus efficace pour exprimer sa réflexion et sa connaissance de la vérité. Il y a une phrase de Platon dans le Phèdre qui est intéressante, parce que voilà ce qu'elle dit. Lorsqu'en effet, bon, ils auront réussi sans enseignement, donc sans pédagogie à enseigner, lorsqu'ils ont réussi à se pouvoir d'une information abondante, ce qui est le cas par l'externalisation des savoirs, bien sûr, ils se croiront compétents, parce que si on sait qu'on peut accéder au savoir, on a un sentiment d'une compétence, parce que nous saurons beaucoup de choses, mais en fait, ils seront dans la réalité, pour la plupart, incompétents, parce que le problème n'est pas de savoir, mais de développer l'intelligence sur le savoir. Et il y a un autre philosophe que vous connaissez, qui est Montaigne. Et je suis sûr que vous connaissez tous sa phrase tirée des Essais, qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la phrase réelle de Montaigne, c'est la suivante. Je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur. Et en fait, cette phrase, elle n'est pas destinée aux élèves, elle est destinée aux précepteurs, elle est destinée aux pédagogues, elle est destinée à l'enseignant. Ce qui fait que c'est mon propos de fin, qu'il ne faut pas avoir peur des démons, il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies, il faut plutôt être du côté des anges et se dire que si nous voulons que les utilisateurs, que ce soit les enfants ou les seniors, s'approprient correctement ces nouvelles technologies, il faut que nous qui sommes du côté des enseignants et de la pédagogie, il faut que notre tête à nous soit bien faite plutôt que bien pleine, de façon à ce que nos messages passent bien. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci Bernard. Moi je lui poserais bien une question, comment ces logiciels utilisés dans le milieu, disons, de gériatrie pourraient éventuellement être réutilisés dans le contexte de l'école ? Est-ce qu'on peut, en particulier pour un certain nombre d'enfants décrochants, etc., qui semblent avoir du mal, est-ce qu'on peut imaginer que cette difficulté pourrait être peut-être réduite par ce type d'exercice, ces exercices interactifs qui modifient finalement, qui améliorent la compréhension, l'adaptation, etc.
Alors, je pense que des enfants qui sont effectivement, qui ne sont pas dans la difficulté, il est clair qu'ils peuvent rire devant la configuration de certains exercices spécifiquement destinés pour les seniors. Mais là, ce serait plutôt dans le cadre d'Activital. Si l'on regarde les exercices plutôt d'Happy Neurone, ce sont des exercices qui sont réalisés par des sujets très jeunes, ça on le sait, ça ne leur pose pas de difficultés, et on voit que leur progression vers les niveaux de difficultés les plus élevés est beaucoup plus rapide par rapport à des seniors. pour des enfants qui sont plutôt en difficulté, là, nous avons des produits qui sont destinés aux orthophonistes et des produits spécifiquement pour les enfants qui sont des enfants dyslexiques ou des enfants qui sont dans les troubles de l'apprentissage. Mais là, ce sont des logiciels plutôt destinés aux professionnels accompagnant l'enfant. Sinon, on peut considérer effectivement qu'on pourrait, entre guillemets, utiliser ou dégrader certains de nos exercices en collaboration avec des pédagogues qui ont le désir d'avoir des exercices spécifiquement adaptés. C'est l'intérêt quand même de toute l'informatique et de tous ces logiciels, c'est qu'on peut tout à fait modifier les conditions de rapidité de présentation, modifier les consignes. Le point important, c'est vraiment de faire très attention aux consignes, parce que dans notre expérience, il faut pas donner des consignes trop longues, trop compliquées, parce que les gens abandonnent. Il faut vraiment passer par des interactions de consignes très 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 courtes, et en particulier aussi bien pour des seniors très âgés, de plus de 80 ans, que chez des enfants en difficulté, parce que leur mémoire de travail ne leur permettra pas d'appréhender les consignes.
Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Bernard dans la salle ? Bon, merci. En tous les cas, moi j'étais très heureux de t'entendre et merci de ta contribution. Si tu peux rester en ligne et poursuivre ta participation à la séance qui va se continuer, ben voilà, nous sommes à ta disposition.
Je vais essayer, merci beaucoup. Merci à vous.